Salut Raph.
Salut Pat.
OK, donc aux États-Unis, un peu comme on a vu au Québec, là, les foyers pour personnes âgées ont été particulièrement touchés par le coronavirus et la Maison-Blanche a des demandes très précises à ce propos-là.
Et les demandes sont musclées. Ce qu'on ordonne, c'est que la totalité du personnel et des résidents à la grandeur des États-Unis pour tout ce qui est foyer de personnes âgées, foyer de retraite, ça soit testé. Et ça, dans combien de temps? D'ici une semaine. On parle d'à peu près 1 million de tests minimum qui seraient faits donc en 7 jours. Pourquoi? Ben, écoute, tu le soulignes toi-même, c'est complètement disproportionné. C'est vrai que c'est pas juste aux États-Unis, mais on se parle des États-Unis, parlons-en. Écoute, c'est au minimum le tiers des décès liés à la COVID-19 aux États-Unis qui ont eu lieu dans des foyers de retraite. Je dis au minimum parce que tu as certaines estimations qui mettent ça en fait plus près de la moitié. Et tu as des États comme le Connecticut où c'est 90%. 90% des morts qui ont eu lieu en foyer de retraite. En Pennsylvanie, presque 70%. Et c'est scandaleux. C'est carrément scandaleux pour au moins deux raisons. La première, c'est la plus évidente. C'est qu'on le savait. Tu sais, je te disais quelque chose hier ou avant-hier à l'effet de quoi, tu sais, on dit souvent qu'il y a bien des choses qu'on ne sait pas sur le virus, mais aussi des choses qu'on sait. Mais une des choses qu'on savait, et ça, écoute, au plus tard au mois de mars, mettons qu'on met les données chinoises de côté parce qu'elles n'étaient pas fiables, juste avec l'Italie, on le savait. En Italie, les données officielles disaient que l'âge moyen des décès, c'était 80 ans. Mm-hmm. Plus de 99% des gens décédés avaient au moins une comorbidité. Ce qui ne veut pas dire que, comme certains l'ont laissé sous-entendre, les vies de ces personnes-là étaient moins importantes parce que c'était des personnes âgées. Au contraire, ce que ça aurait dû faire, c'est que c'était évident qu'on devait les protéger encore plus. Et ça m'amène à la deuxième raison pour laquelle, selon moi, c'est complètement scandaleux ce qui a lieu dans tous ces États américains-là où il y a tant de morts dans les foyers de personnes âgées. C'est que, et ça, on est en train de l'apprendre. On est en train de découvrir des documents qui sont en train de sortir. On a carrément forcé les foyers de personnes âgées à accepter des gens qui avaient été testés positifs à la COVID-19. Mm-hmm. Fait que c'est pas juste qu'on a toléré qu'ils soient là. C'est qu'on a forcé ces établissements-là à les admettre. Alors qu'on savait qu'évidemment, c'était le lieu dans une société qui allait être le plus à risque. Ça n'a pas de sens.
Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu au Québec là, quand il y a eu des transferts de personnes âgées des hôpitaux au CHSLD. Mais écoute, Raphaël, il y a aussi une partie, je pense, là, peut-être que je me trompe, là, mais il y a une partie de l'analyse qui est facile à faire quand on est loin de l'événement. Là, t'sais, au début de la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui apprenait sur le tas. Là.
Ben, sais-tu quoi? J'ai le goût de te citer un médecin auquel j'ai parlé, puis je peux te dire que c'était pré-pandémie. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré dans un gym. Ça, c'était avant que ça ferme, OK? Et le type me disait, et c'était pas un virologiste, c'était juste un médecin, entre guillemets, juste un médecin de médecine générale qui me disait, écoute, de tout ce qu'on en sait, il m'avait regardé avec un sourire, il avait dit, quelqu'un comme toi, t'as à toute fin pratique aucune chance d'en mourir, mais si jamais ce virus-là rentre dans un foyer de personnes âgées, ça va faire un carnage. C'était le mot exact qu'il avait utilisé. Écoute, c'est un exemple anodin que je te donne comme ça. Et c'est sûr, où je suis d'accord avec toi, c'est que en regardant dans le rétroviseur, la vision va toujours être meilleure que quand tu dois agir et prendre des décisions en temps réel. Mais de là à dire qu'on ne pouvait pas prévenir ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. Et je me permets aussi de te faire un parallèle avec bien des choses qu'on a condamnées dans les médias, comme par exemple, là-dessus, je suis coupable autant que n'importe qui, les fameuses images des plages bondées en Floride au mois de mars. Tout le monde, ou à peu près, est allé dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens, ce que ça va créer comme dommage. Mais tu sais, entre avoir des gens qui sont à 2, 3, 10 mètres de différence ou de distance sur une plage et traiter des résidences de personnes âgées comme des passoires, qu'est-ce qui, au final, va avoir été le plus dommageable? Mais là, on en a des données. Et deux mois plus tard, per capita, là, donc laissons de côté qui a le plus grand nombre de citoyens, la Floride a 4 fois moins de morts que la Pennsylvanie, 13 fois moins de morts que New Jersey, 17 fois moins de morts que l'État de New York. Et dans tous les cas, attends, je vais juste finir rapidement, dans tous les cas, ces États-là ont forcé les résidences de personnes âgées à accepter des gens qui étaient positifs. La Floride l'a interdit.
Mais ce qu'on pourrait te dire, c'est qu'il y a plusieurs Américains qui visitent la Floride, qui est un spot de tourisme là, très, très attrayant. Fait que la personne qui vient en Floride au spring break où c'était permis, ben, elle a peut-être été infectée du monde en Pennsylvanie aussi. Là.
C'est pas impossible. Et là-dessus, effectivement, écoute, on se gardera un devoir, disons, d'attente, mais à l'heure actuelle, il y a des décisions, je pense, qui sont difficiles à justifier quand on voit que c'est, écoute, c'est carrément, en termes de nombre, ce sont des dizaines de milliers de personnes âgées, maintenant aux États-Unis, qui sont mortes dans les foyers de retraite. Et écoute, là-dessus, je ne suis pas le premier et malheureusement pas le seul à le dire, ou heureusement pas le seul à le dire. Mais tu sais, une personne morte, c'est pas juste cette personne-là, ce sont ses proches. Et d'avoir vu ces personnes-là non seulement mourir dans les foyers qui étaient censés s'occuper d'elles, mais mourir dans presque tous les cas, dans une solitude totale, ça arrache un peu le cœur.
OK, Raphaël, Philippe Quentin veut savoir, ça va être qui ton... Qui crois-tu va devenir le ou la VP de Joe Biden si Joe Biden est élu? Philippe a son opinion.
Oui, c'est parce que j'ai fait ma prédiction à Pat un petit peu plus tôt cette semaine et j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Moi, je pense qu'il y aurait avantage, je ne dis pas que ça va être elle, parce qu'on sait qu'il a déjà annoncé que ce sera une femme, mais moi, je pense qu'il devrait y aller avec Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan.
Explique-moi pourquoi, Philippe.
Ben, parce que le Michigan, Trump l'a gagné lors de la dernière élection. Hillary Clinton a perdu par quelques vote à peine. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui serait capable de renverser le Michigan du côté démocrate. Je pense qu'elle est extrêmement populaire dans son État. Elle a de l'expérience comme gouverneur. On sait que c'est une expérience de gestion que Clinton, par exemple, avait quand il était candidat démocrate à la présidence.
Bush,
lui. Bush également. Et je vois comment Trump l'attaque, Gretchen Whitmer. C'est une de celles qu'il a le plus attaquée il y a à peu près deux semaines. Là, c'était à boulet rouge sur elle. Moi, je pense que ils sont un petit peu inquiets de sa candidature. On verra bien. Je regarde les sites là, où on met des odds, des cotes. Elle est dans les 5 favorites, mais elle n'est pas la première.
Mais sais-tu ce qui me remplit de joie dans le fait que tu m'as donné une réponse aussi riche que ça? C'est que là, je regarde le temps et on commence à en manquer. Donc, ça va me permettre de ne pas faire de prédictions en ondes entières.
Tu as déjà été brûlé par quelques prédictions.
Brûlé une fois, brûlé pour toujours.
Hey, j'ai déjà prédit la Coupe Stanley au Nordique. Alors, fais-toi en pas avec ça.
C'est vrai, c'est en quelle année?
Oh, ça fait longtemps. 93, l'année où ils sont si bien partis en série contre les Canadiens, mais ça s'est gâté par la suite.
Écoute, comme Pat le sait, j'étais un ancien fan des Nordiques. Donc, cette série-là, je l'ai encore sur le cœur. Donc, mes sympathies.
Merci, Raphaël. On se reparle demain. Merci, bye Philippe. Bye. T'es libéré. OK, bye. On va aller faire une petite pause, aller s'informer au bulletin de nouvelles. Et au retour, la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, on va parler de sport.